Cotton Malone focalisait toute son attention sur l'homme et la femme. L'un et l'autre faisaient partie, comme lui, d'un groupe de touristes qui visitaient Herrenchiemsee, un château du XIXe siècle comptant 70 pièces nichées dans le sud de l'Allemagne. Louis II avait voulu son Versailles à lui, un temple en l'honneur de son héros, le roi Soleil, Louis XIV. Il avait donc acquis une île densément boisée que baignaient les eaux glacées du Chiemsee pour y construire non pas une copie, mais sa paraphrase personnelle de Versailles. Comme c'était le cas pour l'original, il n'avait été tenu aucun compte des aspects pratiques dans la conception de l'ouvrage. Les deux châteaux avaient été pensés en tant que monuments à la gloire de l'absolutisme. La version de Louis II comprenait en outre un mémorial dédié à ses ancêtres Wittelsbach, une façon pour lui de se mettre au niveau, ne serait-ce qu'en esprit, de ce passé prestigieux. Mais l'édifice n'avait jamais été terminé. À la mort de Louis, en 1886, seul le corps de bâtiment et 20 pièces étaient achevés. Ni les immenses ailes, ni les pavillons, ni le fameux dôme n'étaient encore sortis de terre. Quoi qu'il en soit, même en l'état, ce qu'il était parvenu à créer ne laissait pas d'impressionner. C'était un mélange presque écrasant de baroque et de rococo, chaque salle plus somptueuse et chargée de dorures que la précédente. Une affirmation de puissance et de richesse adressée sans détour aux visiteurs quels qu'ils soient. Mais c'était l'homme et la femme qui accaparaient l'intérêt de Cotton. Il les avait remarqués dès que le groupe s'était formé au rez-de-chaussée. Ils étaient arrivés presque en retard, apportant le froid du dehors, munis des deux ultimes billets de la journée. Le palais fermant à 16h15, cette visite était la dernière. Plus tôt dans l'après-midi, il avait observé qu'après être descendu du ferry qui traversait le lac, certains touristes marchaient jusqu'au château, quand d'autres prenaient une calèche. Il avait choisi de parcourir à pied le trajet de quelques centaines de mètres parmi les bosquets de pins et de bouleaux, respirant avec plaisir l'air hivernal vivifiant de la Bavière. Avant de se mettre en chemin, il avait acheté son billet d'entrée dans une boutique de souvenirs près du débarcadère, ainsi qu'une brochure où figuraient non seulement tous les renseignements concernant le Herrenchiemsee, mais aussi un plan du premier étage. Il s'intéressait particulièrement à une pièce de l'aile nord entre la chambre royale et la salle à manger, et il fut ravi de constater que l'opuscule contenait certaines informations utiles à son sujet. Il aimait beaucoup cette région du monde. Avec ses sommets imposants, ses vallées profondes, ses cavernes, ses forteresses et ses villages au charme désuet, lieu de prédilection tout trouvé pour les gnomes, fées, lutins et autres chimères, la Bavière semblait baignée dans une brume de légendes. Les personnages allemands mythiques tels Tannhauser, Lohengrin, Parsifal avaient fait l'objet d'innombrables contes qu'exploitaient depuis des siècles poètes, compositeurs et romanciers. Et Cotton, de longue date inconditionnelle de Louis II, avait lu plusieurs ouvrages à propos de cet illustre monarque, rêveur à contre-courant de son époque, qui osait donner corps à ses fantasmes dans le monde réel, mais dont la vision des choses ne rencontrait malheureusement pas l'approbation de ses contemporains, dont certains le qualifiaient de fou. Il avait déjà visité Herrenchiemsee, ainsi que Linderhof et Neuschwanstein, les deux autres châteaux de contes de fées, où résidait Louis. Trois adorables fantasmagories. Mais ce qui l'amenait aujourd'hui n'avait rien d'un fantasme, pas plus que l'homme et la femme qu'il observait. Tous deux étaient jeunes, la petite trentaine peut-être. Elle, blonde, bouclée, jolie silhouette, pommette haute. Lui, rasé de près, musclé, cheveux foncés coupés très courts. Comme Cotton, et contrairement aux autres visiteurs, ils n'étaient pas passés par le vestiaire du rez-de-chaussée et avaient gardé sur eux des manteaux de laine légers. Cotton monta le grand escalier de pierre tarabiscotée de l'aile sud à la suite de la petite troupe, tandis que le guide débitait son discours sur les dallages en marbre multicolore et les murs habillés de stuc inspirés de l'ancien escalier des ambassadeurs de Versailles. Il remarqua les frises riches d'allégories. Pouvoir, force, vérité, justice. Et les animaux symbolisant les quatre régions du monde, taureau pour l'Europe, tigre pour l'Asie, bison pour l'Amérique, lion pour l'Afrique. D'autres images encore représentaient les éléments et les saisons. À travers la verrière du plafond, un exploit technologique pour le XIXe siècle selon le guide, il vit que le ciel s'obscurcissait, signalant le déclin de l'après-midi. Sous les latitudes septentrionales où se situait l'Allemagne, la nuit tombait tôt à la fin de l'automne. L'accompagnateur expliqua que Louis ne résidait au château que quelques jours par an, du 29 septembre au 8 octobre, lors de sa rituelle tournée d'inspection des travaux. Le grand escalier avait donc rarement résonné de bruit de pas, et les diverses pièces recueillies le son de voix humaines. Quand le roi était présent, on jonchait les marches de lys et de roses. L'un des touristes ayant demandé pourquoi, le guide répondit avec un haussement d'épaule que c'était simplement là un élément supplémentaire du merveilleux dont aimait s'entourer le prétendu roi fou de Bavière. Cotton ne pouvait pas s'empêcher d'admirer ce personnage. Un individualiste authentique, un visionnaire. On racontait qu'il avait acheté l'île pour l'arracher aux griffes de bûcherons bien décidés à en abattre tous les arbres. Mais sa motivation était autre. Subjugué par le profond silence des bois, il aurait déclaré « Je me bâtirai ici une demeure où nul homme ni nulle femme ne pourra troubler ma tranquillité. » La visite se poursuivit par une série de salles très ornementées et décorées de tableaux monumentaux, la plupart figurant Louis XIV. Beaucoup de lys également, l'emblème des Bourbons, dans les frises et le parquet. Les pièces n'étaient pas vides comme elles l'étaient à Versailles. Elles renfermaient une profusion de meubles. Sacro-saint était l'adjectif que Louis se plaisait à utiliser pour qualifier les habitudes, coutumes et goûts de ses idoles françaises, importants à ses yeux au point d'être intouchables. Il se réjouissait que son nom allemand, Ludwig, corresponde à Louis en français. Il avait le sentiment, au dire de la guide, qu'un pacte avait été scellé par le baptême entre lui et les Bourbons, qu'il était lié à eux par quelque chose de bien plus puissant qu'une simple filiation physique et que, de ce lien, procédaient ses rêves de pureté et de grandeur. Ils pénétrèrent dans la chambre à coucher royale couverte de lambris blancs et de dorures scintillantes. Une balustrade dorée délimitait l'alcôve ovale contenant le lit, et le plafond était orné de figures mythologiques en stuc doré lui aussi. Les fenêtres étaient drapées de rideaux en velours rouge liserés de broderies au fil d'or qui, d'après la brochure que Cotton avait lue attentivement, avait nécessité plusieurs années de travail. Le lit était assez vaste pour accueillir une douzaine de personnes. Cette chambre, première pièce du château achevée au début des années 1880, avait été la plus décorée d'Allemagne à l'époque. Mais personne n'y avait jamais dormi. Elle n'avait été créée que pour les apparences. Silhouette et Musclor faisaient mine d'être intéressés, mais ils ne l'étaient pas, et leur intérêt n'allait pas tarder à être éveillé pour de bon. Cotton visualisa mentalement le plan du premier étage qu'il avait étudié en venant. Cela lui était possible grâce à la mémoire eidétique qu'il tenait de sa famille maternelle. Pas à proprement parler une mémoire photographique, comme l'a qualifié certains, plutôt une capacité remarquable à se rappeler les détails. Il savait que la spectaculaire salle des miroirs se trouvait juste en face de lui et qu'après avoir traversé une autre chambre à coucher, plus petite et fonctionnelle, qui avait, elle, vraiment été utilisée, les visiteurs poursuivraient par le bureau du roi, nommé salon d'écriture dans la brochure. C'est là que la fête commencerait. Les efforts de Silhouette et Musclor pour ressembler à des touristes n'étaient qu'une mise en train. Le reste du groupe comprenait quatre Chinois et deux dames qui s'exprimaient en français. Le château était souvent bondé. Des hordes de gens s'y pressaient chaque jour, mais surtout au printemps et en été, où les haies se remplumaient, les fontaines crachaient leurs nappes d'eau et les promeneurs envahissaient parcs et jardins. L'automne n'était pas la saison touristique, et c'était là la véritable explication de la présence du couple. La foule était bien la dernière chose dont Musclor et Silhouette avaient besoin. Cotton avait servi 12 ans comme agent de renseignement pour le compte de la section Magellan, une unité spéciale attachée au ministère de la Justice des États-Unis, avant de prendre une retraite anticipée et de quitter la Géorgie pour le Danemark. Il était à présent chef d'entreprise, propriétaire d'une librairie spécialisée dans les livres anciens située à Ebroplatz, une vieille place pavée du centre de Copenhague.